Frères et sœurs, à quoi sert tout ce que demande Jésus ? À quoi ça sert tout ce qu'il demande ? Il nous exhorte à ne pas riposter aux méchants, à donner à celui qui veut emprunter, à aimer ses ennemis, à saluer ceux qui ne sont pas nos frères. Mais à quoi cela sert-il ? À être supérieur aux scribes et aux pharisiens ? À être en règle ? Si Jésus nous demande cela, c'est pour l'accomplissement d'une identité. C'est pour que nous soyons vraiment les fils du Père qui est aux cieux. Il s'agit de l'accomplissement de cette identité, être vraiment les fils de notre Père qui est aux cieux. Jésus dit, vous serez vraiment. Donc il y a quelque chose qui est déjà présent, qui est déjà acquis, et en même temps quelque chose qui doit s'accomplir. Vous serez parfait comme votre Père est parfait. C'est le terme grec qui est utilisé pour exprimer cette perfection, téléios, exprime une maturation, c'est arrivé à terme, ça a pleinement grandi. Donc nous avons cette identité de fils du Père. Israël l'avait déjà reçue comme don. Le roi David s'adressait ainsi au Seigneur dans les chroniques. Dans le livre de Sagesse, le livre de le vieux Tobie également, il disait « C'est lui notre Dieu, c'est lui notre Père, il est Dieu dans les siècles. » Et le prophète Isaïe, à son tour, au chapitre 63 et 64, rapporte la prière du peuple « Seigneur, tu es notre Père. » Dieu apparaît comme le Père du peuple d'Israël. C'est déjà un fait. Cependant, cette identité doit arriver à son achèvement, à sa maturation. Mais c'est une maturation où notre implication personnelle, et pas seulement collective, va être en jeu. Le discours sur la montagne, un tout petit peu plus loin, nous invite à devenir vraiment les fils du Père, mais utilise l'expression « ton Père qui voit dans le secret ». C'est plus simplement une collectivité qui parle, il y a un lien personnel, il y a un lien singulier qui doit s'établir avec « ton Père qui voit dans le secret ». Alors notons encore que cet appel à maturation a Dieu pour mesure, ce n'est pas rien. « Soyez saints, car je suis saint », avait entendu Israël dans le Lévitique, c'était notre première lecture. Et dans l'Évangile, vous serez parfaits, achevés, comme votre Père est parfait. Donc la mesure, c'est d'ailleurs pas seulement Dieu, c'est Dieu Père. Vous voyez, le terme de Père n'est pas anodin. On ne dit pas seulement « vous serez parfaits comme Dieu est parfait », mais comme votre Père est parfait. Plus haut, on a dit « vous serez vraiment fils ». Cet achèvement passe par une relation filiale, active, vivante. Ce n'est pas qu'un titre. Alors en quoi est-ce que c'est important pour nous ? C'est que le Fils reçoit la vie de son Père. Notre achèvement se produit dans la mesure où nous recevons la vie de notre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas seulement une œuvre de notre volonté, il y a à recevoir de lui. Et du coup, il y a peut-être deux choses que nous pouvons inclure dans notre vie. La première chose, c'est de croire que c'est son amour qui m'a créé. Je vis parce que tu m'aimes. Je ne suis pas le fruit du hasard ou d'un accident. Je vis parce que tu m'aimes, toi le Père des cieux. Je suis appelé à fonder mon origine, mon existence en lui. J'ai une origine qui est toute sainte. Je peux être heureux de mon origine, elle est belle, même si mon histoire humaine est douloureuse, cabossée. Mon origine dans l'amour de Dieu est belle et sainte. Puis la deuxième chose qui vient de cette relation filiale qui est appelée à grandir, c'est de croire que Dieu m'a fait pour que sa ressemblance paraisse au monde, pour qu'à travers ma vie, son visage soit manifesté au monde. Vous voyez, de la même façon que au Jourdain, la voix du Père s'était fait entendre pour désigner le Verbe incarné, le Verbe qui s'est fait chair, la voix du Père avait retenti « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Eh bien, nous sommes appelés à reconnaître à tout homme cet amour de Dieu. Tout homme a besoin d'être reconnu comme le Fils du Père. Tout homme a besoin qu'on lui dévoile cette identité. Les bons comme les méchants, c'est-à-dire ceux qui se sont pervertis. Dans l'Évangile, quand on soulignait de Dieu, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes, cela ne voulait pas dire que leurs comportements n'ont pas de conséquences, mais que Dieu donne à tous de quoi vivre, les conditions pour vivre. Oui, il demandera compte de nos actes, mais il donne à tous ses conditions de subsistance. Et donc on peut faire ce test pour notre vie, sachant donc que nous avons à grandir dans ce lien de filiation. Est-ce que je prends le temps de me tourner vers le Père? Au début de ma journée, est-ce que j'ai fondé ma vie dans l'amour du Père? En avoir conscience, lui demander sa grâce. Au début de ma journée, généralement, j'ai un peu conscience, alors après les premières vapeurs du réveil, où je suis peut-être encore un peu dans les vapes, mais après j'ai un peu conscience de ce que je vais faire dans ma journée. Est-ce que dans ma journée, je vois un peu peut-être les lignes importantes ou les personnes que je vais rencontrer? Eh bien, je viens me fonder dans l'amour du Père. Seigneur, pour que je puisse dévoiler ta ressemblance dans ceux que je vais rencontrer, je viens me fonder en toi. Donne-moi de pouvoir être ta voix, le révélateur de ta voix. Est-ce que je fais cela au début de ma journée? Ou bien, au terme de ma journée, ai-je témoigné que tout humain était précieux et méritait le respect? Cela vaut le coup de regarder comment je me suis comporté avec les uns ou les autres, et de regarder parfois, oui, à ce moment-là, je lui ai manifesté qu'il était précieux. Ou bien, au contraire, oh là, je suis passé à côté de lui et je n'avais qu'une idée, c'était de m'enfuir au plus vite. Est-ce que j'ai vécu cette révélation du prix de sa vie, du respect de sa vie? Jésus nous amène à entrer dans cette filiation, à vivre de cette filiation, à en comprendre la grandeur, la puissance et à aller en chercher la beauté. Mais donc voilà, on pourrait dire qu'en ce dimanche, on peut se poser cette question. Est-ce que je vis cette vocation filiale? Est-ce que ma vie est imprégnée de cette vocation filialement sainte? Et je voudrais insister là-dessus, et là je suis en train d'aborder un autre point, parce que vivre cette vocation filiale ne demande pas de prérequis, sauf à être baptisé. Il n'est pas nécessaire d'être marié pour le vivre. Il n'est pas nécessaire d'avoir prononcé des vœux pour en vivre. En effet, régulièrement, je reçois ce retour de personnes qui ont l'impression que leur vie est un peu à l'arrêt, en stand-by, parce qu'ils ne correspondent pas au modèle qu'on pourrait dire classique, marié ou religieux. Ils sont célibataires, séparés ou veufs. Ils sont inquiets de savoir si leur vie a un sens, ou bien s'ils sont comme des gens en gare qui ne cessent de voir les trains passer sans trouver le leur ou sans pouvoir monter dedans. Vivant un célibat subi, on se demande si notre vie peut être féconde, car au cœur de notre vie, on a le sentiment à la fois d'être sur notre terre, il y a plein de choses qu'on organise, c'est fait à notre goût, avec une certaine intelligence, mais en même temps pas vraiment sur notre terre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inaccompli, sans un conjoint, sans une famille? C'est un sentiment qui est un peu analogue à ce qu'avait connu une partie du peuple d'Israël au retour de l'exil à Babylone. Quand ils sont revenus sur leur terre, les notables avaient des titres de lignée, des titres de propriété. Ils sont rentrés dans leur terre. On pourrait dire que ça s'est passé plutôt bien pour eux. Et puis, les petites gens, ou ceux qui étaient restés sur la terre, tous n'avaient pas été déportés, se sont retrouvés sans titre de propriété, parfois dépossédés. Ils étaient à la fois sur leur terre et en même temps, ce n'était pas vraiment leur terre. Ils se posaient cette question, est-ce que c'est vraiment ça notre héritage? Comme on peut se poser la question quand on vit un célibat subi, est-ce que c'est ça mon héritage? J'ai l'impression que je n'avais pas signé pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le peuple d'Israël va traverser cette épreuve en se tournant vers le Dieu Père. Les chapitres 63-64 du livre d'Isaïe expriment cette situation-là. Et le peuple va avancer en se tournant vers Dieu Père. Il y a un accomplissement de notre vocation filiale à vivre, le développement d'une fécondité spirituelle. À travers mon travail, les services que je rends pour donner la vie, si je suis un professeur, par le savoir, la culture que je donne, que je transmets, il y a un accomplissement du don de la vie. C'est par le don de notre être, le don de notre travail, que nous allons trouver une fécondité. Alors vous allez me dire, mon père, vous êtes gentil, mais on ne vous a pas attendu pour nous engager. On a d'ailleurs parfois une générosité qui était importante et qui se vit actuellement. Et ma pointe n'est pas de dire « engagez-vous, vous ne faites rien », c'est pas cela. Mais c'est peut-être de transformer la façon de vivre cet état. Est-ce que nous consacrons ce travail, ces engagements? Est-ce que nous les consacrons? Est-ce que nous le vivons même comme une consécration à Dieu? Même si elle n'est pas permanente, mais voilà, aujourd'hui je vis cela comme une consécration à Dieu. Parce que ça fait une différence. Au-delà de l'occupation du temps, cela devient une chose sainte. La consécration de notre travail peut être transformée. Vous voyez, comme la consécration du pain et du vin, ce n'était que du pain, ce n'était que du vin, consacré, ils deviennent la vie du Christ. Notre œuvre, lorsque nous demandons cette consécration de notre œuvre, peut devenir vie du Christ. Et c'est plus du tout la même chose. Ça devient une chose sainte. Et de vivre une chose sainte est quelque chose qui peut remplir notre cœur, qui peut fortifier notre cœur. D'accord, peut-être nous sommes aussi avec une attente, avec une insatisfaction, mais nous savons que nous vivons une chose sainte. Un célibat subi n'est pas forcément un célibat stérile. Un célibat subi pendant un temps peut vivre de cette consécration baptismale et découvrir une fécondité et un fruit digne des fils de Dieu. Il y a une paix, il y a une joie qui en viennent, en même temps qu'il laisse une place à une présence, à l'attente d'une présence peut-être. On dit parfois le mariage c'est marcher ensemble vers Dieu qui est notre bonheur. Eh bien peut-être que nous sommes en attente d'une rencontre, mais commençons à marcher vers Dieu qui est notre bonheur, par la consécration de nos activités. Et en faisant cela, nous pourrons aussi, et nous demeurerons ouverts à trouver sur cette route quelqu'un qui veut marcher avec nous, sans que cela conditionne notre mise en marche. Ne faisons pas du surplace en attendant quelqu'un avant de commencer à marcher. Consacrons notre travail, notre œuvre, parce que dans cette vocation filiale de donner au Père, de demander au Père d'investir ce que nous faisons, nous y trouverons un accomplissement de notre vie. Seigneur Jésus, toi le Fils unique du Père, tu nous apprends à devenir véritablement fils du Père. Réveille en nous la connaissance et la joie de cette vocation filiale et donne-nous la persévérance d'y grandir sous la conduite de l'Esprit Saint. Amen.